là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, celui qu'on dit Garrigue à Montpellier, Canassul à Toulouse, à Local à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ce soir, on va vous parler un peu de la situation dans les centres de rétention administrative, les fameux CRA, les prisons donc pour sans-papiers. C'est une émission de l'actualité des luttes de Paris, de Fréquence Paris Pluriel, qui date du 9 octobre, donc est assez récente. À signaler que l'actualité des luttes fait une émission par mois sur ce thème, sur cette radio à Paris. Il faut dire que à Paris, bien, ils ont des CRA autour de Paris. Entre autres, il y a le CRA de Vincennes, mais il y a surtout le plus grand CRA de France, de Mesnil-Amelot. Alors, et puis, il y a des militants qui font du boulot là-dessus, au niveau information et au niveau lien avec ceux qui sont, eh bien, foutus dans ces CRA, qui sont des véritables prisons pour migrants. Alors, on va donc entendre cette émission. Il y aura des coupures. On pourra nous-mêmes commenter par rapport à ce qui est dit. Et voilà.
L'AG du mercredi contre les centres de rétention. Alors, peut-être pour commencer, puisqu'à quand même, à chaque fois, on donne pas mal d'infos et vous en aurez tout au long de cette émission. On avait envie de vous demander comment réagissent les associations qui interviennent à l'intérieur des centres de rétention.
Ouais, du coup, dans les centres de rétention, comme tu viens de le dire, en gros, il y a des associations qui sont mandatées par l'État, donc qui répondent à un appel d'offres, blabla, qui sont censées garantir le droit des prisonniers à l'intérieur. Du coup, ces associations-là, elles sont en concurrence, et globalement, quand il se passe des choses en centre de rétention, il n'y a rien. Et en fait, même la CIMAT, qui est censée être l'association la plus, soi-disant, gauchiste du lot, quoi, enfin, en tout cas, qui va dénoncer les conditions d'enfermement sur tout ce qui s'est passé au Mesnil-Amelot depuis 8 mois, il n'y a quasiment aucun communiqué de prisonnier, par exemple, qui a été relayé tel quel par la CIMAT. C'est arrivé une ou deux fois, quoi. Et du coup, en fait, il y a des grosses pressions pour garder les appels d'offres. Enfin, en fait, c'est de la
Elles sont tenues par l'argent, quoi, par ouais. Les subventions qu'elles reçoivent.
Et pour rappel, c'est arrivé en 2008. En fait, ça a été lancé par Hortefeux, donc la fin du monopole de la CIMAD dans les centres de rétention. Et ça arrive donc après qu'il y ait plein de centres de rétention qui brûlent, après des grosses révoltes en centres de rétention. Et donc, c'est pas pour rien aussi, quoi. Et là, on voulait revenir un peu sur ça, parce que Plaisir et Palaiso, c'est donc deux centres de rétention qui sont un peu loin en Île-de-France, mais qui sont gérés par la même association, qui s'appelle France Terre d'Asile. Et donc, comme toutes les associations en centre de rétention, elles sont là pour faire croire aux gens qu'il y a un droit qui existe pour eux. En vrai, quand on regarde le droit des étrangers en France, le droit, il est uniquement répressif maintenant. Il n'y a quasiment plus aucun
recours, hein.
Titre de séjour de plein droit, etc. Enfin, et donc, ces gens-là, ils vont faire croire aux prisonniers et aux prisonnières que peut-être avec des recours, à un moment, on va s'en sortir. Alors qu'en fait, les gens qui travaillent dans les CRA, ils savent très bien, quoi. Ils font des papiers machinalement toute la journée, ils savent très bien, ils voient très bien les résultats, etc., quoi. Et du coup, c'est déjà ça leur premier rôle. Et en fait, leur deuxième rôle, c'est aussi de calmer la colère des prisonniers et des prisonnières. Et ça va être en recueillant des fois les plaintes pour violences policières, et donc en faisant croire, pareil, que la justice, un jour, elle va se saisir, que les prochains, pour eux, ce sera moins violent, etc. Carrément, des fois, en fait, ça va être en refusant les plaintes. Donc ça arrivait à Plaisir récemment. C'est en collaborant totalement avec avec la police partout. Juste pour rappel, quand même, il y a eu une histoire, c'est certainement pas la seule, de viol au Ménil-Amelot en décembre dernier. C'est France Terre d'Asile Plaisir qui prévient la CIMA de Ménil-Amelot, et c'est la CIMA de Ménil-Amelot, enfin en tout cas un membre de la CIMA de Ménil-Amelot qui a prévenu la police, et la personne a été expulsée le lendemain, et toutes les prisonnières, elles ont pris des gros coups de pression dans la suite. Et donc c'est aussi ça en fait le rôle de ces associations, c'est à la fois de faire un tampon mais aussi de collaborer et de poucave derrière, de balancer
de manière à ce que de pacifier complètement, de faire croire que tout se passe bien dans le centre de rétention, qu'il y a pas de problème quoi.
C'est ouais, ça on l'a vu vraiment aussi dans les cas de plaisir pendant la grève de la faim d'il y a 10 jours plus ou moins, parce que carrément en France Terre d'Asile, on fait la grève de la faim, elle a commencé parce qu'il y avait un refus de visite, en fait il y avait personne qui pouvait visiter les prisonniers. Et France Terre d'Asile, face à ça, elle n'a absolument pas réagi. Et même quand elle était un peu... On l'a appelée aussi, on a essayé de leur dire qu'en fait, là, c'était déjà quelque chose de très grave. Même du point de vue de la loi, c'était quelque chose qui était complètement contre les droits des retenus. Bah, ils n'ont vraiment rien fait. Et sur la question aussi, par exemple, du fait de ne pas prendre des plaintes aussi, on a un cas très récent, toujours à plaisir. D'un mec qui a été hospitalisé pour essayer d'éviter l'expulsion, qui a été ramené après l'hôpital au centre, qui a décidé de porter plainte aussi contre les médecins parce qu'il avait complètement défoncé par les calmants et tout. Et il a été déporté le lendemain. Et les jours où il a été ramené, il a essayé de porter plainte. Bah, la France Terre d'Asile a dit non, pas aujourd'hui, on fait ça la semaine prochaine, mais c'était trop tard.
D'accord, donc l'expulsion sert aussi à cacher ce qui se passe à l'intérieur des centres de rétention.
Ouais, c'est clair que quand on porte plainte à l'intérieur, en fait, généralement la préfecture elle va accélérer quoi. Et comme quand on désigne des leaders, etc., dans les révoltes, en fait, c'est les gens que la préfecture elle va soit essayer de poursuivre pour les envoyer en prison, soit qu'elle va essayer de déporter. Et quand il n'y a pas de consulat pour le faire, il y a des consulats plus conciliants que d'autres, on va en reparler en fait dans l'émission. Et donc ils vont utiliser plus ou moins toutes les stratégies pour essayer de faire taire les gens. Quoi, transfert, expulsion, prison. Et donc et moi je voulais juste revenir sur le fait que donc là on a parlé de France Terre d'Asile, de la CIMAD, mais que du coup il y a beaucoup d'assos qui sont comme ça. On disait bien que c'est des assos qui sont en concurrence et qui remportent un marché. Dedans il y a Forum Réfugiés qui est à Lyon, on en a beaucoup parlé dans une émission qui s'appelle L'Envolée et qui est tous les vendredis soirs. Il y a beaucoup de témoignages qui sont sur internet. Là-bas, les grèves de la faim, elles sont fréquentes, la répression policière aussi. Et en fait, Forum Réfugiés va jusqu'à nier les grèves de la faim. Donc, elle va jusqu'à nier la parole des gens qui sont à l'intérieur en se plaçant systématiquement du côté de la police. Tout à l'heure, dans l'émission, on aura sûrement l'occasion de revenir sur Wassel, mais c'est pareil, Wassel, c'est France Terre d'Asile. Ils sont dans le même couloir que le mitard à Wassel. Et en fait, sur cette même antenne, en janvier et en février, il y a eu des personnes qui ont témoigné de Wassel sur cette émission et qui ont raconté à la fois des viols dans les fouilles et à la fois des humiliations au mitard avec porte ouverte et avec les gens de France Terre d'Asile qui passent devant. Et donc, c'est ça, quand on parle de collabo, en fait, c'est...
Carrément.
Voilà quoi, le mot il est bien choisi.
Carrément, quoi. Et puis la question de la faute de moyens qui est souvent évoquée dans ce genre de situation ne tient pas. Je veux dire, ou on fait le boulot correctement, ou sinon on se barre et on n'est pas collaborationniste de ce type de situation.
Ouais, et juste un dernier truc, dans les assos qui sont présentes, il y a aussi l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte, elle gère le centre de rétention de Lille. C'est le centre de rétention où il y a une zone spéciale pour terroristes. Donc dans leur rapport de l'année dernière, les associations, donc, elles expliquent qu'il y a eu un gars qui a été enfermé là-bas. On peut y être enfermé pendant 6 mois au centre de rétention. Et évidemment, en fait, quand on est désigné terroriste par la France et qu'on va être expulsé vers l'Algérie, en fait, on est mis en danger de mort. Du coup, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a empêché l'expulsion. Et donc la personne, maintenant, elle a assigné à résidence, on ne sait où. Voilà. Mais donc, c'est un centre de rétention hyper particulier parce qu'il y a une zone spéciale pour les gens qui sont fichés S ou accusés de terrorisme, avec donc une répression particulière. Et c'est une association qui, par exemple, faisait les secouristes à la Manif pour tous dimanche dernier. Voilà, c'est ça, l'Ordre de Malte.
Ah, sympa. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Très bien.
On va faire un petit commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport aux associations. On est tout à fait d'accord par rapport à la collaboration que peuvent faire très clairement ces associations. Il y a bien sûr l'Ordre de Malte qui est la pire, mais les autres sont pas du tout clairs non plus. Alors faut rappeler quand même qu'à la CIMAD, il y a de ça 20 ans, plus de 20 ans, il y avait eu des débats à l'intérieur de la CIMAD pour savoir si, parce qu'à cette époque-là, il y a plus de 20 ans, jusqu'en 2008, ils géraient entre guillemets, hein, ils étaient présents dans tous les centres de rétention en France. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la CIMAD dans les centres de rétention, qui avaient une fibre militante et étaient, dirons-nous, très très enclins à aider véritablement ceux qui étaient encasernés là-dedans. Alors, faut savoir que un CRA, c'est une prison, sauf qu'il n'y a pas de matons. Les matons, c'est des flics. Hein. Les gens de la CIMAD ou d'autres associations qui se sont partagés le marché public. En 2008, tout ça, c'est une histoire de fric, évidemment. C'est une histoire aussi d'emploi. Eh bien, à la CIMAD, il y avait eu, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait eu un débat pour savoir s'ils restaient ou pas dans les centres de rétention. Et on s'aperçoit qu'ils auraient mieux fait de partir, si ce n'est que de toute façon, en restant, ils ne peuvent que collaborer. C'est là quelque part une logique tout à fait normal quand on est dans une situation de gérer un centre de rétention, on est en rapport donc en direct avec la police, avec les préfectures qui vont effectivement faire en sorte de reconduire à la frontière un certain nombre de sans-papiers. Alors à signaler que là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, tous les sans-papiers qui sont dans les CRA ne sont pas expulsés. Il y en a beaucoup qui arrivent à s'en sortir. Mais c'est pas lié aux associations, c'est lié au fait que pour que la personne soit virée de France, il faut que l'État qui va les accueillir, c'est-à-dire dont ils sont soi-disant ressortissants, on y reviendra tout à l'heure dans un témoignage, accepte. C'est pour ça que les consulats sont de ces pays-là sont consultés par la France pour savoir s'ils acceptent que monsieur machin un tel ou madame machin ou les familles, hein, il y a des familles, hein, si le pays accepte, il y a certains États qui refusent, il y en a d'autres qui acceptent, mais attention, il y a quand même une communauté qui réagit. C'est ce qui s'est passé pour le Mali. Par exemple, les Maliens se sont organisés pour faire en sorte que l'État malien refuse de prendre sur son sol des gens qui étaient expulsés de France. Bon, il y a eu un rapport de force qui a été gagné à un moment donné. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui.
Il y a eu le même problème avec les Comores en début d'année, puisque les Comores ne voulaient plus, à un moment donné, accepter... tous les gens que la France, via Mayotte, leur envoyait.
Ouais.
Bon, simplement, ce que vous voulez dire, c'est que théoriquement, dans les centres de rétention, parce que on n'en parle nulle part, il devrait plus y avoir d'enfants. Il y en a toujours. Que actuellement, ce qui prime avant les centres de rétention, c'est le fait d'être mis sous
assignation
en résidence. Donc, la France évite le plus possible d'envoyer maintenant en centre de rétention, mais n'empêche que les centres de rétention sont toujours pleins.
Il faut dire que je ne sais plus combien il y a de places, mais ça pose un problème. Ça pose un problème de sous pour l'État français, parce qu'effectivement, normalement, avec tous les OQTF qu'ils donnent, les centres de rétention sont complètement engorgés. Donc, dès qu'il y a un sans-papier qui a un pied à terre quelque part, il est assigné à résidence. Et assigné à résidence, c'est quand même aussi terrible. C'est moins terrible que le CRA, mais c'est terrible parce que tous les jours, vous êtes obligé de pointer à la gendarmerie où j'ai les flics avec la trouille au ventre qu'un jour, on vienne vous dire non, quand vous pointez à la police ou à la gendarmerie, eh bien, on vous arrête et puis on vous met dans l'avion, sans que vous ayez été prévenu.
Donc, on parlait tout à l'heure de Mayotte. Mayotte est le seul endroit où il existe un lieu de rétention, je ne sais plus si ça a un sens, moi, ou qui est pratiquement vide parce que la loi... donc qui dit que on a le droit de faire des recours quand on est en OQTF ne s'applique pas à Mayotte et que les gens sont presque systématiquement renvoyés dans la journée. Et donc ce qui fait que c'est l'endroit où on expulse le plus en France. On est plus, là, on en a, au début octobre, on était à 22 000 expulsions de Mayotte. C'est beaucoup plus que sur l'ensemble de tout le territoire français. Donc c'est Mayotte fait exception. Alors je sais que le président de la République s'est rendu à Mayotte, ce qui était un des sujets, mais je n'ai pas encore lu de trucs précis par rapport à ce qu'il a pu raconter par rapport à ce qu'il appelle l'immigration clandestine à Mayotte.
Voilà, bon, on va continuer un peu.
Oui, donc un petit peu de musique et puis après on va écouter trois témoignages de gens qui sont en rétention administrative.
Son, est-ce que tu peux le présenter rapidement?
Ouais. La semaine, il y a deux semaines, quand on parlait de la grève de la faim à plaisir, on avait fait passer une série d'enregistrements faits par des prisonniers en centre de rétention, et il y en a un d'eux qui avait commencé à parler des allers-retours CRA, prison, Algérie, à nouveau ouais. En prison. Mmh. Et en fait, il a voulu avec nous développer un petit peu plus, parce que c'est quelque chose qui peut lui réarriver, et c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Il y a des cellules spéciales en Algérie, et du coup, on aura l'occasion là d'y revenir.
D'en savoir un petit peu plus.
En 2018, je me fais contrôler à Bordeaux, et contrôle de papier. Ils m'ont ramené au commissariat. Et là-bas, j'ai fait deux jours de garde à vue. Après, ils m'ont dit que j'avais l'interdiction de tueur. Du coup, ils m'ont fait passer au tribunal. Ils m'ont mis 4 mois de prison en ferme. Et du coup, après, je suis allé au prison. J'ai fait 3 mois de prison. Et à ma sortie, j'arrive au greffe. Et là, il y avait la police. Ils m'ont dit qu'ils vont te ramener en Algérie. Déjà, sauf que je vois la consulat, j'ai pas vu la consulat. Ils m'ont pas dit déjà, même avant ma sortie, qu'on va te ramener en Algérie. Je t'ai arrêté quand j'arrivais au greffe, j'ai vu la police. Et là, ils n'ont même pas parlé avec moi. Ils m'ont attaché les pieds, les mains, le bras. Et là-bas, ils m'ont ramené de Bordeaux en avion jusqu'à Orly, attaché. Et à Orly, et encore, ils m'ont ramené en Algérie. Pareil, attaché dans la caisse. Je leur ai dit que je ne suis pas un Algérien, tout ça. Ils m'ont dit non, t'es un Algérien et tout. Et voilà, ils m'ont ramené en force. Et du coup, j'arrive en Algérie. Ils m'ont mis direct au centre de détention là-bas. Ils m'ont dit, on va faire les vérifications avec toi pour voir si t'es un Algérien ou pas. Et du coup, j'ai fait 4 mois et demi. Et après 4 mois et demi, ils ont dit que je ne suis pas un Algérien et il faut qu'ils me renvoient encore en France. Et ben voilà, après 4 mois et demi, ils m'ont renvoyé en France. J'arrive à l'aéroport d'Orly. Et là, quand je descends de l'avion, il y avait la police. Ils m'ont dit, monsieur, on va te ramener au commissariat pour des vérifications, tout ça. J'arrive au commissariat et j'ai fait une journée de garde à vue. Et là-bas, bah, ils m'ont dit, il faut que t'as menti, je sais pas quoi, que t'es pas un Algérien, il faut que tu passes au tribunal, tout ça. Et du coup, bah, je suis passé au tribunal de Créteil. Et là-bas, le juge, il m'a mis, j'ai pris 5 mois en prison de ferme par rapport à ça. Ils m'ont dit, parce que tu n'es pas un Algérien, tout ça. Et voilà, c'était après, moi, j'ai rien compris. Et du coup, bah, ils m'ont ramené en prison à Fresnes. J'ai fait 4 mois de prison là-bas. Et après, je suis ressorti. Là où il y a, en 2019, je me fais contrôler à Paris. Et voilà, ils m'ont ramené au commissariat. Ils m'ont dit qu'on va faire des vérifications et tout. Et du coup, bah, là-bas, ils m'ont dit qu'il faut qu'on te ramène au centre. Parce que t'as une quitte de territoire français. Et voilà, ils m'ont ramené au centre de détention. Et là, ce que j'ai compris, ils veulent faire la même chose. Ils veulent me ramener en Algérie. Sauf que déjà, ils ont fait une grosse erreur en 2018. Et là, du coup, ils veulent faire la même chose. Et voilà, moi je leur ai dit que je suis pas un Algérien, je suis un Syrien. Et déjà, normalement, sans dire ça, normalement, ils vont jamais me dire que c'est un Algérien parce que déjà, ils m'ont ramené là-bas et ils ont dit que je suis pas un Algérien. Déjà, j'ai fait au moins presque un an de prison en Algérie 4 mois, puis en prison en France. Et là, franchement, je comprends rien. Et voilà, ils veulent m'envoyer encore en Algérie. Voilà, j'ai perdu un an déjà de ma vie, comme ça. Et là, ben, ce que je vois, j'ai peur qu'ils vont faire la même chose, qu'ils me ramènent encore en Algérie. Déjà là au centre, je ne sais pas, je vais faire combien déjà, un mois, deux mois. Après, puis s'ils me ramènent en Algérie, ça veut dire que ça va être la même chose. Ils vont me mettre au centre, je ne sais pas encore combien, 3 mois, 4 mois. Et ce qu'ils disent, si je ne suis pas en Algérie, ben, quand ils vont me ramener encore en France, l'Algérie, ça va être la même chose. Ils vont me mettre au prison. Franchement, là, c'est trop, c'est... Là, je comprends rien.
T'es pas passé par le centre de rétention à Bordeaux, t'as fait prison?
Non, à Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux, bah, du coup, j'ai fait ma peine, et à ma sortie, moi, normalement, quand ils te ramènent au centre, ou ils te ramènent au pays, bah, ils viennent, c'est dur au moins avant une semaine, ils disent qu'on va te ramener au centre, ou on va te ramener au pays, et du coup, moi, ils m'ont rien dit, juste à ma sortie. Et voilà, j'arrive au greffe pour récupérer mes affaires et j'ai jamais pensé qu'ils vont m'envoyer en Algérie. Du coup, bah, il y avait la police et m'ont ramené en Algérie.
Quand tu dis ils t'ont forcé, ça veut dire quoi en gros?
Directement attaché, déjà, m'attacher les pieds, les mains, et de Bordeaux jusqu'à Orly, et Orly jusqu'à Algérie, attaché. Okay. Ils m'ont détaché dans l'avion quand j'ai presque suis arrivé en Algérie au moyen, tu vois. M'attaché dans l'avion.
Et ils étaient combien les escortes? Ils étaient deux?
Il y avait trois.
Et en Algérie, ça se passe comment? Tu vois un juge ou pas?
Là-bas, oui. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait 2 jours de garde à vue là-bas. Et puis, je suis passé au tribunal. Et après le tribunal, ils m'ont mis au centre. Ils m'ont mis en amende. Ils m'ont dit en amende et puis au centre.
Ok. Et ils t'ont mis en prison ou dans un centre de rétention?
Parce que comme un centre, ils disent c'est un centre de tension, mais en fait, on dirait que c'est un prison. C'était trop dur. Quoi.
Tu sais où il est?
C'est à Alger, ouais. Alger centre.
Ok.
Du coup, il y avait le centre, c'était un grand truc de police.
Ouais.
Alors, tu vois, comme un grand commissariat, il y a trop de. En fait, de commissariats dedans. Et voilà, il y avait le centre.
Ok. Ça se passait comment, du coup, dans le commissariat central d'Alger? Ça se passait comment?
Bah, c'était trop dur.
Il y avait beaucoup de cellules?
Non, il y avait 2 salons et c'était rempli. 2 chambres.
Yes, ouais, comme maintenant, quoi, 2 cellules.
Dans l'état de France et tout, on parle pas parce que c'était trop fin. Voilà, c'est dur.
Ils ont pris tes empreintes là-bas?
Ouais, ils m'ont pris des empreintes. Ouais, j'ai fait 3 fois des empreintes.
En Algérie? Et comment ça s'est passé la garde à vue en Algérie?
C'était leur façon de parler, tout ça. Voilà, ils m'insultent. Il y a un qui m'a tapé déjà, il m'a dit t'es un Algérien au début. Je lui ai dit non, je suis pas un Algérien, vous allez vérifier de toute façon avec mes empreintes, vous allez voir que je suis pas un Algérien. Ils m'ont parlé mal au début et tout. Même au garde à vue, c'est. Je n'ai pas dormi déjà 2 jours, je dors pas, il n'y a pas de cellule pour dormir. 2 jours debout, le temps.
Ok. Et le jugement, c'est comment? Genre, t'as un avocat commis d'office, t'as quoi?
Non, sans avocat, non, il n'y avait pas un avocat, il n'y avait rien.
Les gens qui sont dans la cellule, dans les cellules avec toi là, à Alger, pendant les 4 mois, c'est des gens qui sont expulsés de France vers Algérie et qui sont pas algériens, c'est ça?
Voilà, il y avait beaucoup de Marocains, des Tunisiens, Égyptiens.
Ok. Et tous, ils étaient expulsés de France vers l'Algérie?
Ben, ils ont fait ce que on l'a dit, après ils ont tous renvoyé d'où ils arrivent.
Et ça se passait comment là-bas, la bouffe, au côté?
Franchement, c'était la même.
Vous aviez vos téléphones avec vous?
Oui, on avait le téléphone, mais on sort pas en fait. 4 mois et demi dans une chambre, je sors pas, je bouge pas. Pas de promenade, y a rien.
Ok.
Comment?
T'avais accès au médecin?
Là-bas?
Ouais.
Non, jamais, il n'y a pas de médecin. Quand tu demandes de médecin, il dit qu'il n'y a pas où il faut attendre. En fait, il n'y avait jamais de médecin. Non, il ne prend pas la tête pour qu'il ramène un médecin. Il s'en fout, ça.
Ça veut dire si t'as du sursis là-bas pour ça, si on te
Ouais.
re-renvoie en Algérie, tu vas faire de la prison
Ouais,
en plus du centre.
c'est risqué de faire la prison. Voilà.
Ton retour vers la France, ça se passe comment? T'as une escorte?
Non, je suis rentré tout seul. M'envoyer tout seul. Et voilà, ils m'ont dit genre que j'arrive là-bas, c'est fini, tu sors de l'aéroport, il n'y aura rien du tout.
Pourquoi t'as repris 5 mois là à Fresnes? C'était quoi le motif?
Bah, le motif, ils disent que j'ai fait en Algérie, et genre que je suis un Algérien, tu n'étais pas un Algérien, je sais pas.
Quand t'étais à Fresnes, est-ce que t'as eu peur qu'ils
Oui?
reviennent te chercher à la sortie?
Non, 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 il n'y avait pas.
Ok. Et là, du coup, t'as toujours pas vu le consul algérien?
Non, j'ai pas encore vu.
Ok.
Mais ils me disent que dans pas longtemps, là, je vais aller voir le conseiller d'Algérie.
Je dis, ils se permettent de t'enfermer gratuitement quelques dizaines de jours en plus, du coup.
Voilà, c'est ça, c'est exactement. Franchement, c'est trop là.
Et ça a eu, tu vois, parce que j'imagine, moi, tu vois, si on m'enferme pendant 1 an comme as, du jour au lendemain, en vrai, je perds mon appart, je perds plein de trucs. Toi, ça s'est passé
Bah,
comment
tu es
pour toi?
partout. Tu es partout en fait. Tu sors, tu n'as pas de maison, t'as rien, t'as pas d'argent, t'as pas de. Tu manges pas, tu fais rien, c'est dur. Faut dire ça.
Il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Un truc que tu trouves important sur ça?
Bah, ce truc important que voilà, que là, je suis en change, je comprends rien du tout. Et ils disent que je suis toujours algérien, qu'ils vont encore m'en ramener deuxième fois en Algérie, je comprends rien du tout. Ils avaient dit je suis pas un Algérien, je fais rien. Et j'ai ramené même le préf qui dit je suis pas un Algérien, qui était là-bas. Et franchement, ça c'est grave, je comprends rien du tout en fait. Je vois pas c'est où la loi, c'est où la loi d'homme, c'est le droit de l'homme, je vois rien là. Franchement, c'est trop.
T'as entendu parler de gens qui se sont fait renvoyer une deuxième fois en Algérie?
Ouais, j'ai déjà vu quelqu'un, ouais.
Quand t'étais en Algérie?
Ouais, quand j'étais en Algérie, j'ai vu un Tunisien là-bas, il m'a dit, genre qu'en 2016, ils l'ont ramené là-bas. Et après, ils l'ont ramené en France, pareil, il a fait la prison à Fresnes. Et en 2018, quand j'étais là-bas, c'était lui, ils l'ont ramené encore, et il m'a dit, c'est la deuxième fois qu'il me ramène ici. Et en rentrant en France, on a rentré ensemble, pareil, ils l'ont mis encore en prison. C'est-à-dire, elle a fait la même chose. Ils ont fait la même erreur 2 fois.
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit des erreurs en vrai, tu vois. C'est ça le problème, hein. Tu vois.
Mais c'est quoi alors?
Quand tu renvoies, bah, j'ai l'impression que la préfecture, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Quand tu renvoies 2 fois la personne dans un pays, ou alors que l'Algérie, elle l'a renvoyée en France, tu sais très bien que.
Ouais, c'est-à-dire, ils font ça exprès alors.
Bah, moi, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je pense, quoi.
Ouais. Ah, c'est ça. Il y a le préf, il y a tout, ils disent que on voit que la personne, si elle était une fois là-bas, ils l'ont renvoyé, elle n'était pas de l'Algérie, c'est-à-dire rien qu'elle ramène deuxième fois. S'ils ramènent une autre fois, bah, c'est-à-dire ils font ça exprès pour le marre de les gens, tout ça.
Yes.
Pour leur faire de leur vie, leur voilà. Where you trying to run to? Don't you even know that you're still gonna be you every place you go. Change your name and address. That's what a lot of people say. But the cards that the
Allô.
Allô, oui.
Ouais, du coup, on était avec toi déjà au téléphone il y a 2 semaines pour parler un peu des centres de rétention de plaisir Wassel. Et du coup, on était pas mal revenu aussi sur la répression par les transferts, parce que toi, donc, t'as déjà fait 3 centres de rétention en 45 jours, quoi. C'est un beau rythme. Et qu'en plus, ça fait quand même Rouen 78 et après 77, quoi. Donc, c'est pas à côté.
Ouais.
Et là, en fait, on voulait revenir un peu sur France Terre d'Asile. Donc toi, c'est pratique. Toi, c'est quelque chose que t'as pas mal subi puisque tu viens de Wassel. Donc on rappelle, Wassel, c'est un centre de rétention qui est près de Rouen, qui est à 20 km de Rouen et qui est à 4 km de la gare la plus proche, où il y a aucun transport en commun pour y aller, qui est situé dans une école de police et pas loin d'une forêt. Donc voilà, c'est un peu un mix entre Ménilmontant et Vincennes, quoi.
Bah, revenir sur comment Terre d'Asile t'a.
Comment France Terre d'Asile gère par exemple la grève de la faim à Wassel? Quand elle a lieu, quoi.
Un plaisir aussi.
Bah, j'étais à Wassel, j'ai passé à Wassel 27 Wassel. Et avec France Terre d'Asile, chaque fois qu'on fait une grève de faim, on a fait 2 fois une grève de faim là-bas. J'ai parti le voir, je le demande, ils ne respectent pas nos droits, ils ne respectent pas du tout, ils ne nous donnent presque rien du tout, ils ne nous donnent pas des bouteilles d'eau, ils nous donnent de la viande. On a décidé de faire grève de faim. Et France Terre d'Asile, il a dit, moi, je peux rien faire pour vous.
C'est-à-dire même pas, ils ont informé sur le fait que vous étiez en grève de la faim, quoi.
Non, il n'y a personne qui l'a... Ils n'ont rien fait, rien du tout. J'ai parti le voir, j'ai dit, monsieur, ça fait 2 heures, on fait grève de faim. Il a dit, bah oui, on n'est pas au courant, nous, on n'était pas au courant, on peut rien faire. Grève de la faim, ça sert à rien du tout. Je dis, comment ça sert à rien du tout? Je dis, ils ne nous donnent pas des promenades, il n'y a pas d'interprète pour les gens qui ne parlent pas français, il y a des gens qui leur font signer des papiers, je dis, sans savoir qu'est-ce qu'ils signent. Et France Terre d'Asile, il dit, non, on peut rien faire. On peut rien faire. Même les appels, les mecs, le juge a pris une décision pour faire appel à le droit. Il dit, oui, on ne peut pas vous faire appel, ça ne sert à rien de faire appel. Il prend la décision à votre place.
Ouais, du coup, en fait, il fait le travail de la préfecture, quoi, en gros.
Ouais, mais France Terre d'Asile, c'est la préfecture aussi, pour moi.
Et justement, moi, je me demandais, du coup, parce que là, tu parlais des gens qui ont des galères en langue, ça se passe comment à Wassel quand tu sais pas parler français et que tu te retrouves avec des gens comme ça?
Bah, j'étais à Wassel, j'ai parlé à leur place, et ils m'ont dit à la fin, c'est moi le chef. Ils m'ont fait transférer. J'ai fait la traduction pour les gens qui parlent pas français. Je lui explique c'est quoi vos droits, c'est quoi, vous avez le droit de ça, vous avez le droit, un interprète chaque fois il vous ramène une feuille, vous avez le droit de faire appel sur chaque décision du juge si vous n'êtes pas content, si tu veux manger, tu ne manges pas la viande, tu vas voir le médecin, il te fait un certificat comme quoi vous êtes végétarien, ils vont te mettre végétarien. Ils sont venus me voir 2 fois, ils m'ont dit oui c'est toi le chef de réseau, ils m'ont transféré, ils m'ont salé mon dossier pour rien du tout.
Ouais, du coup en gros, comme l'association ne fait pas son taf après... Qui fait le taf à leur place, au moins des traductions et tout ça. Après, justement, il est vu comme un peu les leaders de la révolte. Ouais. Après, déporté.
Ouais, ils m'ont fait, voilà, exactement. Ils m'ont dit, c'est toi qui t'enchaînes les gens, c'est toi qui t'es en train de remonter la tête à des gens. Et ils disent, ouais, comme quoi, le centre, il était bien, en vrai, il était pas bien. Depuis le début d'année, il y avait ils ont allumé le feu, ils ont fait grève de faim, ils ont vidé le centre, ils ont fait les travaux, ils ont revenu. Les lavabos, il y a du foot d'eau dans les cellules tous les jours, ils ne réparent pas du tout. Et j'ai vu un handicapé qui marchait avec un béquille, il n'y avait pas de toilettes, il y a des toilettes turques là-bas, il ne peut même pas s'asseoir, il ne peut pas faire ses besoins. Et j'ai vu des mecs asthmatiques, j'ai vu des mecs, en tout cas des maladies diabétiques, et on n'a pas le droit de les mettre dans le centre. Mais eux, ils le mettent quand même, il n'y a personne qui réclame rien du tout.
D'accord, donc en fait, vous demandiez à ce que vos droits soient respectés, exactement, en sachant qu'il y a très peu de droits à l'intérieur des centres de rétention,
exactement,
et même ces droits ne sont pas respectés.
Ils ne sont pas respectés du tout, il n'y a pas le droit de l'homme là-bas, il n'y a pas le droit, il y a le droit des animaux peut-être ici en France, mais le droit de l'homme n'existe pas. C'est des papiers blancs sur le code pénal de droit de l'homme, il n'y a rien écrit. Il y a écrit juste le titre droit de l'homme, mais vous ouvrez la feuille, il n'y a rien. Et ils n'ont même pas marqué les règlements de centre comment ils sont, car chaque centre il est obligé de mettre les règlements sur les murs, sur toutes les langues. Plusieurs langues, anglais, arabe, français, espagnol, Tout ça, il faut normalement le douane qui le marque sur le mur et visuel. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Et du coup, suite à ça, tu es transféré à Plaisir.
Et transféré à Plaisir et il a révélé la même chose. Il y avait un gars qui parlait déjà avec vous et son témoignage, qui c'est un Algérien, c'est pas un Algérien, on va en Algérie. Ce monsieur, il avait une visite, c'était un samedi. C'était un samedi, on est parti le voir. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que le monsieur, il comprend pas bien français, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a pas de visite? Le policier m'a claqué la porte dans la gueule, il m'a dit, je t'explique rien du tout, reviens plus ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On a décidé de faire une grève de faim pour voir le commando de centre. Le commando de centre, jamais se présente, car le droit, c'est pas moi que je le dis, hein, donc leur code pénal, chaque détenu, il a le droit de voir le commando.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'article 24, du coup, pour voilà, ceux qui sont à l'intérieur.
L'article 24, je le fais à moi seul, je le fais à Plaisir, il n'y a pas. Et on voit son agent, son enjoindre, et son enjoindre, il dit, moi, je peux rien faire, c'est le commando. Bah, moi, je demandais voir le commando.
Ouais, parce que de la même manière, en fait, c'est un droit genre le plus absolu en centre de rétention, c'est de pouvoir voir ses proches pendant les horaires de visite. Et en fait, c'est un truc qui a été hyper grave, ce qui s'est passé ces week-ends-là à Plaisir. C'est on a empêché des gens de voir leurs proches avec des gens qui ont pu se faire expulser hyper loin.
Ouais.
Donc en fait, c'est...
Il y a un enregistrement audio qui mon cousin, il a appelé le commissariat. Ils ont dit, ouais, la visite, il n'y a pas de visite, vous pouvez poser l'argent, les cigarettes... Et c'est tout. Tes droits, ils sont pas là. Est-ce que vous pouvez me faire une feuille comme quoi il n'y a pas de visite? L'adjoint de commando, il m'envoie chez France Terre Asile. Il m'a dit, France Terre Asile, c'est elle qui s'occupe de vos droits. Partez la voir. Et elle, il va te faire la certificat comme quoi il n'y avait pas de palois. J'ai parti la voir, la dame, il m'a dit, oui, reviens l'après-midi. L'après-midi, il s'est transféré. Je viens ici, je parle à voir l'association Nassimad. Ils me disent, ok, il appelle devant moi. Il me dit, oui, bonjour madame, vous êtes là-bas, l'association de France Terre Asile. Il dit oui, il dit est-ce que vous pouvez m'envoyer le dossier de monsieur? Et il dit oui, je vous envoie. Il dit est-ce que vous pouvez m'envoyer une attestation comme quoi il n'y avait pas ce week-end la visite là-bas? Il a dit oui, vous inquiétez pas, je vous envoie tout. L'après-midi, il a envoyé tout mon dossier, mais l'attestation de il n'y a pas de visite, non, ils l'ont pas envoyé.
Ouais, du coup, quand là, pendant le début d'émission, on présentait les associations, en fait, on expliquait à quel point elle collaborait avec la police et à quel point, en fait, elle servait justement à aiguiller la police pour savoir qui est-ce qu'il faut virer en ce moment-là du CRA, enfin, essayer de faire tout ce jeu de division, quoi.
Ouais.
Et là, c'est exactement ça, quoi.
France Terre Asile, j'étais à Wassel, il y avait une femme qui était respectueuse, qui travaillait là-bas, il m'a dit, moi, je ne peux plus travailler ce travail car ils ne vont respecter pas vos droits, j'ai un cœur, je vais arrêter, c'est la dernière trimestre que je travaille avec eux. J'ai vu continuer mes études pour être avocat. Alors cette dame, il a disparu de centre pendant 15 jours, il n'y avait pas France Terre Asile. Il était qui au téléphone, tu l'appelles, il te répond, et des fois il te met sur attente pendant une demi-heure. Et je le demande, monsieur, pourquoi vous ne venez pas à Wassel? Il m'a dit, à Wassel, il ne respecte pas, on ne vient pas. On a fait des grèves de faim, on a demandé pourquoi il n'y a pas France Terre Asile, comment ça se fait, les gens, ils viennent, et il n'y a personne qui les fait leur papier. Ce centre, il ne doit pas exister. Normalement, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de règlement, il n'y a rien. Et ils disent, non, mais vous inquiétez pas, on va l'appeler, on va vous appeler, on va l'appeler. Alors la dame, il est revenu avec son chef. Son chef, ça se voit, c'est un mec qui est sûr et certain à 1000% qui travaille avec la préfecture. Ce n'est pas un monsieur pour t'aider, c'est un monsieur pour qu'il est encore retenu dans la merde, désolé pour le mot, mais il est retenu dans la difficulté. Et quand tu parles avec lui, ça se voit, il dit, je peux rien faire, je peux rien faire. J'ai parti le voir pour un monsieur qui l'a demandé de faire appel sur la décision du juge. Il a dit, non, je te fais pas parce que ça n'a rien de faire appel. Il dit, mais attends, monsieur, la décision, ça revient au monsieur, ça revient pas à vous. Il me dit, oui, mais je dis, monsieur, le monsieur veut faire appel, est-ce que vous pouvez le faire appel? Il m'a dit, non, je ne le fais pas appel. J'ai resté pendant une demi-heure, parler avec lui pour qu'il me donne une feuille comme quoi il ne peut pas faire appel.
J'ai dit, ouais, c'est ça, c'est le quotidien, tu vois, là, ce que tu racontes, c'est une histoire parmi toutes celles qui se passent là-bas.
C'est la même chose.
Moi, je voulais juste en profiter pour dire que pour toutes les personnes qui ont envie de parler avec les gens en centre de rétention, apporter leur solidarité, etc., il y a des numéros de cabine qui sont disponibles sur Internet, donc de tous les centres de rétention, que ce soit Wassel, Plaisir, Ménilamlo. Et juste, au passage, pour celles et ceux qui sont dehors et qui aimeraient rappeler aussi un peu France Terre d'Asile, qu'en fait, des fois, il y a des moments où il ne faut pas rigoler et que, par exemple, l'interdiction de parloir, c'était un motif de libération pour les gens si France Terre d'Asile avait fait son taf. Il y a le numéro de France Terre d'Asile OASL, donc c'est le 02 35 68 75 67. Et le numéro de France Terre d'Asile Plaisir, c'est le 01 30 07 77 68. Et tout pareil, ils sont disponibles, en fait, si on fait la recherche sur Internet. Et c'est important, en fait, de montrer à ces gens-là que dehors, il y a du soutien, il y a de la solidarité et que les prisonniers et les prisonnières, elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a du monde, quoi, et qu'on fait attention à ce qu'ils font. Là, nous, on va arriver plus ou moins dans... Pas dans la fin de l'émission, mais on va recevoir un autre appel de Vincennes. Je voulais savoir si tu avais un dernier truc à rajouter.
Moi, chaque fois, comme je dis, j'aimerais bien voir des contrôleurs qui contrôlent. Ils disent ici, ils encaissent de l'argent, 1600 euros par détenu par jour. Ça leur revient comme un business, c'est tout.
Bah oui, c'est un business, ça aussi, hein.
Ouais, c'est un business, et on prend 1600 euros par jour par détenu. Et des mecs qui font des faits pour être présentés devant un tribunal correctionnel, ils le ramènent en prison. Et ils mettent deux vols, ils mettent des vols cachés pour les mecs qui ne sont même pas prévenus, ils ne préparent même pas leurs affaires. Même le premier vol, il vient en cachette, il te prend en force, car il n'était jamais été prévenu. Et France Terre Asile, il est au courant, et tout le monde il est au courant, mais ça ne change rien du tout. J'attends personne qui parle. On est ici à Milieu-le-Mou, il y a 100 personnes, 120 personnes pour deux CIMAD. Vous croyez que la CIMAD il va avoir 100 personnes par jour? Il ne peut pas. Le centre, ils n'ont pas des bureaux, ils n'ont pas des locaux pour rajouter des CIMAD. Alors les CIMAD, ils se trouvent en charge de 10h à midi, de 14h à 18h. Vous trouvez des gens toujours devant la porte. Des fois, tu fais l'attente pendant 2 jours. J'aimerais bien les contrôleurs d'Europe, de centre, ils viennent pour voir comment ça marche les gens ici. Personne ne veut bouger.
Ben, on espère que ton appel il sera entendu.
Ouais. Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage et bon courage.
Merci beaucoup, madame. C'est juste un dernier mot.
Vas-y.
Aussi les locaux pour les paloirs, parce qu'on peut imaginer 120 personnes pour... 3 chambres de paloir. Il y a 3. Et la paloir, ça dure une demi-heure. Alors, faites le calcul, on ne peut pas voir tous les jours les visites. Hein. Nos familles, des fois, ils viennent ici, ils attendent pendant 1 heure, 2 heures, à la fin, le DES, c'est beau, c'est fini, on ne peut pas vous rentrer.
Exactement. Bah, on continuera d'en reparler prochainement avec toi. Merci beaucoup pour ton témoignage, Pato.
Merci.
Merci à vous aussi. Je vous souhaite bonne journée. Bon courage.
Au revoir, bon courage à toi.
Du coup, c'est un copain qui est au CRA de Vincennes, qui est assez connu quand même pour toutes les histoires qui sont passées à l'intérieur. Et il va nous parler un peu des conditions à l'intérieur et peut-être normalement aussi de la question du consulat, parce qu'il faut savoir aussi que toute déportation doit être permise entre guillemets par les consulats de l'État où la personne est censée être déportée, d'où elle est censée être arrivée aussi. Et du coup, on a parlé des collaborations en ce qui concerne les associations qui travaillent à l'intérieur, mais aussi les différents consuls des différents pays sont aussi dans carrément un rapport de très forte collaboration avec l'État français pour des raisons diverses et variées qui ont beaucoup à voir avec le néo-impérialisme aussi. En réalité, il y a des rapports de force qui sont très particuliers, qui se construisent aussi sur des paquets de déportations qui sont négociés en échange des aides au développement, comme ils appellent, et tout ça. Et c'est aussi en lien avec ça qu'il y a des signatures un peu tout le temps, notamment de la part des consulats de certains pays, pour permettre la déportation.
Allô?
Oui, tu nous entends?
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Ouais.
Très bien, oui.
Ouais, du coup, on voulait revenir un peu avec toi sur la question des consulats.
Je m'excuse un peu pour le retard.
C'est pas grave, t'inquiète.
On avait commencé à parler justement de la question des consulats et des rôles qu'ils jouent à l'intérieur des centres de rétention. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé en général dans ton cas aussi avec les consulats d'Algérie?
Pour vous parler en général, comme j'avais évoqué le sujet avec votre ami qui était venu me rendre visite, bah, en général, tout ce qui est droit, tout ce qui est droit du retenu, hein, comme on nous le mentionne sur le règlement intérieur et toute la passe-passe, ben tout cela est bâclé. Je vous le dis clairement, tout cela est bâclé. Même pour le tout ce qui est droit à l'aide médicale ou aux soins médicaux la nuit, eh ben à partir de 20h, on peut pas avoir un pansement, on peut rien avoir. Il y a même l'accueil que les policiers nous ferment littéralement. Donc après... Il arrive par ailleurs que certains retenus soient plus difficiles à maîtriser ou bien soient plus turbulents que d'autres. Là, c'est dans tous les centres que ça se passe. Mais particulièrement à Vincennes, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une personne n'est pas expulsable, entre parenthèses, ou que c'est difficile d'avoir un laissez-passer auprès de l'ambassade des retenues, là, lorsque c'est difficile, là, les policiers ont recours à d'autres méthodes pour que le retenu ait dans son dossier un délit ou plusieurs délits compromettants pour faciliter sa reconduite, en fait. C'est ça qui m'a le plus énervé, en fait. Voilà.
Ouais, parce que peut-être il faut dire que par exemple des États comme la Tunisie, ils ont des accords spéciaux pour les gens qui sortent de prison. Et donc en vrai, quand par exemple t'es tunisien en centre de rétention et qu'après on t'envoie en prison, et ben pour l'État c'est plus facile d'obtenir un laissez-passer même si tu refuses le consul.
C'est ça. Et le délit le plus facile qu'on peut vous mettre sur le dos, c'est les délits de refus de vol. Ouais, quand vous n'êtes pas satisfait de tout ce qui est juridique et de la façon dans laquelle vous avez été avec laquelle vous avez été jugé, hein. Et là pour faire recours, on vous remet pas la décision de juge administratif. On vous dit que ça vous sera remis dans minimum un mois, 28 jours. Et pendant les 28 jours, la mesure d'éloignement, voilà, la mesure d'éloignement qui prend effet. Rapidement, on vous ramène, on prend rendez-vous avec le consul. On vous écrit à l'accueil ambassade, qui est censé venir, reconnaître votre identité ou la confirmer.
Et du coup, à Vincennes, c'est le consul qui se déplace, non? Généralement.
C'est même pas le consul, jamais, c'est le vice-consul.
Ouais.
Le vice-consul, dans mon cas, c'était le vice-consul. Un gars qui parle super mal français, je vous raconte même pas, hein. Je parle super mal français dans un pays français, hein, c'est un pays qui parle, la première langue c'est quoi? C'est le français. Un gars qui parle super mal français, qui ne peut même pas formuler une phrase correcte, lui dit que je suis pas arabe, que je suis kabyle, et que par conséquent je ne peux pas parler arabe, qui devait sans parler français ou anglais. Ben, il me dit un truc honorable, il dit ça va, c'est bizarre. Il dit, vous faites un effort parler arabe, vous comprenez arabe? J'ai dit, je comprends arabe. Et par la suite, il me dit, vous avez des visas, vous êtes algérien, vous retournez dans votre pays. Voilà ce qu'il m'a dit.
Ouais, du coup, en gros, il signe un peu tout le temps, quoi.
C'est bien traité, si j'avais... Vous voyez, donc, nous, on est censé, en tant qu'Algérien, quand on voit quelqu'un de notre gouvernement qui représente notre gouvernement, on est censé être content, en parenthèse. Genre, on est censé être... voilà, lui raconter ce qui se passe ou... trouver une sorte de réconfort, hein, parce que voilà, c'est pas facile ici, mais on s'attend plus à ça, mais quand on voit, quand on le voit, et qu'on le fait ensuite, ben on voit autre chose. Clairement, on se dit que c'est pas normal. Je veux dire, on comprend clairement qu'il y a une politique de reconduite qui est facilitée, voilà, qui est plus facilitée par notre gouvernement qu'autre chose. Après, il y a des ambassades ou des consuls qui ne coopèrent pas dans ça, qui font pas la même chose. Vous savez, l'ambassade du Soudan ou celle du Mali sont totalement différentes de la politique de celle de l'Algérie, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire surtout.
Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que par exemple au Mali, en fait, il y a eu des mouvements ces derniers temps contre ça, et que du coup, ça a forcé le président à refuser les derniers accords que voulait l'État français. Après, honnêtement, le consulat du Mali reconnaît beaucoup de monde. C'est un pays où l'Union européenne est en train de financer des cartes d'identité à empreinte digitale pour pouvoir suivre en fait les gens et que les gens ne puissent plus changer leur âge ou changer d'identité en cours. Ça, c'est en cours. Donc, c'est quand même des États qui sont en train de collaborer contre des Maliens ou, enfin, voilà, c'est contre des gens qui viennent de là-bas, quoi.
Voilà. Et pour vous parler du monsieur, là, je peux vous parler de... Vous savez, le monsieur dont je vous ai parlé la dernière fois.
Ouais, on va lire la lettre après ton appel.
D'accord.
Et si tu peux raconter un peu ce qui s'est passé.
Le monsieur était censé passer devant un juge, je crois. En tout cas, il devait comparaître. C'est ça. Devant, avec le policier qu'il avait littéralement tabassé. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait rendez-vous aujourd'hui à 13h et qu'à 4h du matin, ils sont venus le prendre. Un vol caché, alors que normalement, le vol caché prend effet après que le retenu ait refusé un premier vol. C'est ça. 10 jours après, environ. Et là, il n'y avait même pas son nom mentionné dans l'affichage, rien. Ils sont directement venus le prendre.
Ouais, peut-être juste pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de règle sur les vols cachés. Il n'y a pas de règle sur les vols cachés, comme il n'y a pas de règle sur le premier vol. C'est important à savoir que, quoi qu'il arrive, il peut y avoir une escorte au premier vol. C'est juste qu'ils font des calculs économiques en se disant qu'il y a une partie des gens qui vont accepter le premier vol et que ça coûte moins cher que de mettre des escortes tout le temps. Mais qu'il n'y a pas de règle dans la loi qui dit la personne a le droit de refuser un vol ou le premier vol, le vol caché, ça doit être qu'après le premier vol. En vrai, c'est des techniques de la préfecture pour calmer les gens, enfin pour foutre la pression à l'intérieur, tu vois, clairement.
C'est vraiment bien fait de leur part. Là,
Mais du coup, comment ça s'est passé cette nuit? Tu disais un peu?
Ah ben, cette nuit... Voilà, et le monsieur qui a la quarantaine, là, celui que vous avez dit, il était blessé, enfin, il avait subi des opérations, des interventions. Eh ben, il était tranquille, il dormait tranquille, et on l'a réveillé. Et puis voilà, il a pas trop résisté et tout. Par contre, normalement, en principe, il y a 3-4 policiers qui viennent pour ce genre de choses. D'ailleurs, il y en avait 9. Donc, voilà, il n'a pas trop cherché à résister. Il avait juste prendre quelques affaires. Et normalement il est en route, je pense. C'est bon.
Ouais, a priori, là, si vous avez pas de nouvelles, c'est que soit ils ont réussi à l'expulser, soit il est en garde à vue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter?
Ah ben, ce que je pourrais rajouter, c'est que, bon, mon cas, moi, est particulier, j'ai pas eu le temps de l'évoquer parce que quand c'est, on a pas vraiment le temps, mais ce que je peux rajouter, c'est que je suis clairement très déçu moi qui venais régulièrement en France pour du tourisme et pour autre chose, voilà, pour faire des achats et tout régulièrement, là je suis vraiment déçu de par la manière dont je suis reçu et dont je suis traité. C'est ça.
Ouais.
C'est ça le plus frappant et c'est ça qui... Voilà, c'est limite dégradant. Sachant que je suis pas vraiment quelqu'un qui me plaint ou... Voilà quoi, mais voilà, je suis vraiment très très déçu.
Merci
voilà,
beaucoup.
Voilà.
Oui, alors bon, par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau des témoignages, il y a le premier, on a du mal tout de même à comprendre pourquoi il n'arrive pas à se faire reconnaître en tant que Syrien. Peut-être que c'est lié à l'état de la Syrie actuelle, qui fait que la personne ne peut pas se faire reconnaître Syrien. Et apparemment, si j'ai bien compris, la France, ça les arrange. Ça l'arrange vraiment de le faire passer pour Algérien et pour essayer de le faire passer en Algérie. Et à mon avis, d'après ce que l'on sait, effectivement, au niveau des pays du Maghreb, il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans ces pays-là, reconduits à la frontière, alors qu'ils ne sont pas du tout ressortissants. Le deuxième truc que je voudrais dire, qui est symptomatique de ce qui se passe dans les CRA et de la collaboration des associations, c'est que le droit écrit pourtant n'est pas du tout respecté. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, normalement, dans toute justice administrative, puisque là, on est dans la justice administrative, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par le juge administratif, il y a un appel qui est possible. Or, on s'aperçoit, en écoutant des témoignages, que les appels ne sont pas possibles. C'est-à-dire que, de toute façon, pour faire appel, il faut déjà avoir le résultat de la comparution la première fois. Comme on ne l'a pas, on risque pas de faire appel. Alors, à noter tout de même récemment que Macron a parlé de l'immigration. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement qu'on allait faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite, puisque ces appels, tout ça, retardent les expulsions, retardent les reconduites à la frontière. Alors, aujourd'hui, sur le papier, l'appel est possible. Et demain, ça sera même plus possible avec Macron. Voilà, je crois qu'on va on aura l'occasion de revenir sur ces CRA, parce que c'est quand même des choses terribles qui se passent en France. Bon, et où c'est vraiment des zones de non-droit, carrément.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Grégor, chaque semaine sur les Côtes d'Igarry, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net, sur le blog Le Chat Noir 51 et puis aussi sur Internet.